Le journal, bonjour Adrien Taufolet.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, Hakmi perd sa tête. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique a été tué lors d'une opération des forces françaises au Mali. Un succès annoncé hier soir par la ministre des Armées, Florence Parly. Les autres titres, Adrien.
Des manifestations contre le racisme et les violences policières partout dans le monde. Aux États-Unis, on attend 1 million de personnes dans la capitale aujourd'hui. En France aussi, on se mobilise malgré les interdictions et les débordements à chaque fois. Illustration à Rouen hier soir. Dans l'actualité également, le coronavirus au Mexique où les morts sont toujours plus nombreux. Et puis la SNCF qui voit rouge sur ses finances.
L'invité ce matin à partir de 8h20, ce sera Daniel Cohn-Bendit qui s'interroge sur son identité juive. Ça donne un documentaire visible demain sur France 5. Et bien vos questions ce matin à Daniel Cohn-Bendit, 01 45 24 7000 dès maintenant.
France Inter.
C'est une grande victoire française dans la guerre contre le terrorisme au Mali. La ministre des Armées, Florence Parly, annonce la mort du chef d'Hakmi, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Abdelmalek Droukal, c'est son nom. Le chef historique de l'organisation a été tué mercredi au cours d'une opération dans le nord du pays, après une dizaine d'années passées à gangréner le Sahel. Nathalie Hernandez.
C'est à une centaine de kilomètres à l'est de Tessalit, au nord Mali, que les hélicoptères et les troupes au sol ont délogé et tué l'Algérien Abdelmalek Droukal, qui était à la tête d'Hakmi depuis 2007. Il commandait l'ensemble des combattants d'Al-Qaïda d'Afrique du Nord et de la bande sahélienne, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un des principaux groupes terroristes actifs au Sahel. Plusieurs de ses proches collaborateurs ont aussi été neutralisés, dont le coordinateur de la propagande du mouvement, précise l'état-major des armées. Un des djihadistes a lui déposé les armes et s'est rendu. C'est un succès majeur, écrit sur son compte Twitter Florence Parly, qui annonce également qu'une précédente opération au nord de Gao, cette fois contre l'État islamique au Grand Sahara le 19 mai dernier, a permis de capturer un vétéran du djihad, Mohamed El Mrabat, l'un des cadres importants de l'EIGS. Depuis le sommet de Pau en janvier dernier, les forces françaises de Barkhane sont passées à plus de 5000 soldats déployés sur le terrain. Aux côtés des armées des pays du G5 Sahel, elles ont multiplié leurs offensives.
Mais rappelons que si c'est un coup dur, ce n'est en rien la fin d'Hakmi qui va maintenant se trouver un autre leader pour continuer leurs attaques.
1 million de manifestants sont attendus aujourd'hui à Washington DC.
La capitale des États-Unis qui accueillera l'un des plus gros rassemblements antiracistes du pays. La mobilisation ne faiblit pas hein, depuis le 25 mai dernier et la mort de George Floyd, cet afro-américain tué par un policier blanc à Minneapolis. Malgré les violences policières constatées à chaque fois et les avertissements de Donald Trump qui appelle les gouverneurs du pays à faire appel justement à la garde nationale. Les manifestants, contrairement aux autres jours, n'approcheront pas de la Maison Blanche, protégée par une grande clôture anti-émeute installée hier. Les slogans « Black Lives Matter »,« La vie des Noirs compte » font de plus en plus leur chemin dans l'opinion, mais aussi sur le sol des rues. Littéralement, l'inscription a été peinte hier en lettres géantes jaunes dans la rue qui mène à la Maison Blanche à Washington. Et puis à signaler ce don exceptionnel en faveur de l'égalité raciale et de la justice sociale, un chèque de 100 millions de dollars signé de la main de la légende de la NBA, Michael Jordan, en personne. En France maintenant, le scandale George Floyd trouve un écho. Les rassemblements de 10 personnes sont interdits en raison de l'épidémie de coronavirus, mais ça n'empêche pas les manifestations. Celles en mémoire d'Adama Traoré, mardi dernier à Paris, ou encore à Rouen, hier soir. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies devant le palais de justice pour un rassemblement antiraciste, mais aussi contre les violences policières, comme souvent rassemblement pacifique qui termine mal. Théophile Pedrola a suivi le cortège.
D'abord, un large rassemblement, des pancartes en soutien à George Floyd ou Adama Traoré et des prises de parole, colère et pleurs mélangées.
Tout le monde doit être indigné de ce qu'on subit tous les jours. Nous sommes noirs et fiers. On ne changera pas.
Dans le cortège, il y a Augusto, c'est sa première manifestation. Les événements aux États-Unis l'ont convaincu de venir.
Il y avait aussi un peu bien avant, et puis George Floyd, c'était comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi. Là, on a vu, c'était trop. Déjà, on voit les images super choquantes. Ça bouillonnait, entre guillemets. Il y a de quoi se révolter, quoi. Il y a de quoi se révolter carrément.
Après 30 minutes de marche, le cortège est arrêté près de la gare par la police. Il y a des charges et des lacrymogènes.
On a rien fait, on marche.
Les manifestants répondent par des jets de bouteilles. Stan est dans les premiers rangs, les yeux rougis.
On vient pacifiquement, on n'a rien cassé. C'est la police, quoi. Regardez, on essaie de communiquer, mais eux, ils veulent rien entendre. Et regardez comment ça. Tout ça, c'est gratuit et ça devrait même pas être acceptable.
Après 2 heures de tension, d'un bloc, la foule repart dans l'autre sens et se disperse. La colère, elle, est encore plus forte qu'en arrivant.
Et la colère est toujours là. Des appels à manifester contre les violences policières ont été lancés pour aujourd'hui à Bordeaux, Nantes, Poitiers, Marseille ou encore dans la capitale. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, interdit les rassemblements sur le Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel.
Et puis c'est le premier vrai week-end déconfiné.
La limite de circulation des 100 km n'existe plus. Les Français peuvent se déplacer dans tout l'Hexagone sans contrainte. Mais attention, les autorités rappellent que le virus circule encore, même si sa propagation recule. Au niveau du bilan, les indicateurs sont toujours au vert. 46 nouveaux décès dans les hôpitaux ces dernières 24 heures et toujours moins de monde en réanimation. Un peu moins de 1100 cas graves. On ne peut pas en dire autant sur d'autres continents. En Amérique latine, par exemple, le Mexique est l'un des pays les plus touchés par la pandémie de Covid-19. 13 000 morts, 110 000 cas de contagion. Les autorités reconnaissent même que les chiffres ne reflètent pas la réalité. Un débat sur l'ampleur réelle de la contagion et sur le nombre de morts dues au coronavirus agite donc le pays. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement cette semaine d'ordonner une reprise des activités économiques.
Les rues de Mexico sont à nouveau animées, certains commerces rouvrent et le président Andrés Manuel López Obrador est reparti dans l'une de ses habituelles tournées à travers le pays. Il a baptisé « nouvelle normalité » ce retour aux activités alors que l'épidémie ne décline pas. Mais sa progression reste difficile à cerner tant le niveau de dépistage est faible. Miguel Betancourt, président de la Société mexicaine de santé publique, considère à l'instar d'autres spécialistes que le Mexique est en train de bouger dans le flou.
Lo más peligroso es que se están tomando decisiones con base en poca información.
C'est risqué car les autorités prennent des décisions en se basant sur des données incomplètes. On navigue à l'aveugle et on envoie à la société l'idée erronée d'une épidémie sous contrôle, ce qui complique les actions de prévention.
Depuis quelque temps, la surmortalité est pointée du doigt par la presse. Spécialisée dans l'analyse des données, Sarai Aguilar fait partie de ces chercheurs qui ont épluché les certificats de décès datant d'avril et mai dans la ville de Mexico.
Nous avons détecté 7200 décès dus au coronavirus, alors que les autorités ne reconnaissent que 2139 morts.
Il y aurait donc trois fois plus de morts dans la capitale que ce qu'indiquent les chiffres officiels, des données troublantes, alors que la ville est déjà en mouvement. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
Retour en France où la facture s'alourdit pour la SNCF.
La facture des grèves de l'hiver dernier et des conséquences de la crise du Covid, elle est sévère. Le manque à gagner pour 2020 s'élève à 4 milliards d'euros selon la dernière estimation fournie par le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebbari. Plus que jamais, l'entreprise publique se trouve dans une position très délicate, Fabien Cazot.
La chute du nombre de passagers transportés, particulièrement en région parisienne, a eu un effet direct sur les comptes de la SNCF. L'entreprise publique a eu beau réduire son offre de trains en circulation, les pertes se sont tout de même creusées, plus de 4 milliards cumulés depuis le début de l'année 2020. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur un éventuel renflouement de la SNCF avec de l'argent public, mais ce qui est sûr, c'est que le soutien de l'État sera assorti de contreparties, comme lorsqu'il avait repris ses 35 milliards de dette fin 2018, exigeant alors que l'entreprise assainisse sa gestion et sorte de la zone rouge. Le PDG Jean-Pierre Farandou s'est attendu sur la question. Il n'exclut pas d'ailleurs de jouer sur l'emploi pour diminuer la masse salariale de la SNCF en réduisant les embauches, suggère le gouvernement, ou en remplaçant moins de départs à la retraite.
Une bonne nouvelle pour les défenseurs de la PMA. Pour tout, le projet de loi bioéthique fera son retour en seconde lecture au Parlement courant juillet. C'est la présidente de la Commission des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, qui l'annonce après 10 jours d'incertitude suite aux propos de Gilles Legendre, le patron du groupe LREM à l'Assemblée, pour qui le projet de loi a été reporté sine die en raison de la pandémie de coronavirus, associations et élus, dont les rapporteurs du texte avaient interpellé le gouvernement. Et puis pour finir, Goldorak fait cet après-midi l'objet d'une vente aux enchères et c'est une première. Une riche collection réunie par un Français passionné qui a longtemps vécu au Japon. Des crayonnés, des dessins originaux et des celluloïdes tout à fait exceptionnels que Jacqueline Petros nous détaille.
C'est une collection hors du commun constituée sur près de 20 ans. Goldorak en est le héros, aux côtés de Dragon Ball, Candy, Nicky Larson et autres chevaliers du Zodiac. Un concentré de séries jamais vu en France pour une vente aux enchères. François Méniel, expert à la maison de vente Cornette de Saint-Cyr.
UFO, au Japon, était un peu délaissé, n'a pas eu le succès escompté. Donc c'est un produit qui a été finalement très vite exporté. Et aujourd'hui, grâce notamment à la diffusion par le câble, il y a beaucoup d'enfants enfants qui découvrent ces personnages. Alors, dans la vente, il n'y a pas que du Goldorak, il y a un peu toute l'animation japonaise, mais c'est un pan entier, si vous voulez, de l'histoire de l'animation qui est présentée ici. Cette animation japonaise, c'est une animation un peu plus productiviste, si vous voulez, que l'animation classique Disney, et ça a permis aux Japonais de produire des centaines de dessins animés de 26 minutes qu'ils ont exportés à travers le monde entier.
Parmi les pièces proposées, des fonds originaux dessinés à la gouache, pièces d'une grande qualité artistique. Les prix pourraient s'envoler, emportés par les souvenirs d'enfance.
Je vous vois boucher, mais ça vous rappelle des souvenirs.
Oui, j'étais pas si petit que ça d'ailleurs.
La vente Goldorak à la maison Cornette de Saint-Cyr, c'est cet après-midi à partir de 14h.
C'était le journal d'Adrien Toffolet.